Nous avons vu, lors de ma dernière publication sur Bertrand du Guesclin, 1378-1379, qu'il était toujours connétable de France, mais que ses amis bretons l'avaient lâché. Aujourd'hui encore, on le traite de lâche. Une statue de 2,30 m et d'un pied de 2,5 tonnes fut dynamitée par les indépendantistes en 1977 et en 1988, restaurée, la statue a été taguée et brisée après une tentative incendiaire. Alors, ceux qui le dénigrent, connaissaient-ils vraiment son histoire et sa vie? En fait, c'est simple. Bertrand du Guesclin était un militaire dans l'âme, obéissant, juste, droit, fidèle à sa parole et surtout à celle de son roi. Quand il reçut l'épée de connétable en 1370, il dit au roi et à l'assemblée: « Je ne rendrai cette épée que lorsque tous les Anglais auront quitté la terre de France. » Il n'a jamais trahi les Bretons. En 1379, il obéit au roi de France qui l'envoya en Bretagne pour pacifier le pays. Il se rendit assez vite compte de son erreur quand on lui rapporta que Bertrand du Guesclin ne supportait plus de combattre ses compatriotes et ses amis. Il lui demanda de revenir à Paris et laissa le commandement au duc d'Anjou. Il l'envoya en Haute-Auvergne repousser l'avancée dangereuse et envahissante des Anglais dans la Guyenne. Voilà en quelques mots la véritable histoire de Bertrand du Guesclin en 1379 avec le problème breton. Parti de Paris, le comte de Bourbon le reçut en son château du Bourbonnais. Après quelques jours de festivités, il rejoint le Puy-en-Velay pour y faire des dévotions et des dons. Les députés se plaignaient des ravages des Anglais dans la région. Il partit avec le maréchal de Sancerre à Saint-Flour et assiégea le village fortifié de Chalier dans le Cantal, où étaient retranchés des mercenaires à la solde des Anglais. Il se dirigea vers Châteauneuf de Randon, en Lozère. Les Anglais dévastaient le Gévaudan. Dès qu'ils apprirent l'arrivée de Bertrand du Guesclin, ils se retranchèrent à l'intérieur de leur puissante forteresse. L'assaut fut donné sans résultat. Après plusieurs tentatives, on décida une trêve de 10 jours. Si les renforts n'arriveraient pas avant le 12 juillet, le capitaine de la garnison se rendrait et donnerait les clés de la forteresse à Bertrand du Guesclin. Mais entre-temps, Bertrand du Guesclin tomba malade. Il eut une fièvre continue et très violente. Malgré tous les soins prodigués, son état de santé se détériorait. Les médecins jugèrent que la maladie était mortelle tant par la violence de la fièvre et davantage à cause des fatigues qu'il avait essuyées pendant 40 ans de combat incessant, mais aussi la tristesse de son cœur d'être séparé de ses amis bretons. L'armée fut avertie de l'approche mort de son connétable. Il était impossible d'exprimer la douleur de ses soldats. Chacun disait qu'il perdait un père et un ami précieux. Il se sentait mourir et ne s'en alarmait pas. Il reçut avec piété le sacrement de l'Église. Puis il fit son testament. Il récompensa les gens de sa maison et fut de généreuses largesses à son frère Olivier et à sa femme Jeanne de Laval. Enfin, il ordonna que son cœur fût porté et inhumé dans l'église des Dominicains de Dinan en Bretagne. Puis, sentant la faim, allongé sur son lit, il demanda qu'on lui apportât son épée de connétable. Il dit dans les derniers instants, « Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir pu chasser les Anglais du royaume comme je l'avais espéré. » Puis, en baisant son épée, il murmura au maréchal de son cerf, « Recevez-la de ma main et je vous en supplie, en la rendant au roi, exprimez-lui toute ma reconnaissance. Assurez-lui que je meurs son serviteur, le plus humble de tous. » Il fit 2 ou 3 soupirs et rendit son âme à Dieu. Ses fidèles étaient autour de lui. Son frère Olivier, Olivier de Mauny de toutes les batailles et le maréchal de Sancerre. Nous étions le 13 juillet 1380. Le capitaine de la place de Randon, affligé par la mort de ce grand chef, remit les clés de sa forteresse sur le lit de mort du héros. Il y eut une cérémonie avec les Anglais. Tous se rangèrent en bataille au son des tambours et des trompettes. Les enseignes et penauds aux fleurs de lys et aux aigles bicéphales aux armes des du Guesclin flottaient au vent. Les lances étaient tendues droites pour les piétons et les épées levées pour les chevaliers. Le roi de France fut très affligé de perdre son connétable, mais surtout son ami fidèle qu'il aimait tendrement. Son corps fut embaumé dans l'église des Cordeliers du Puy-en-Velay où les entrailles furent enterrées. Le roi ordonna qu'il reposât à la basilique de Saint-Denis à Paris aux côtés de la reine Jeanne de Bourbon et de lui-même qui mourra 3 mois plus tard. Les honneurs furent rendus au passage du convoi funéraire au Mans, à Chartres et à Paris. Bertrand du Guesclin eut 2 femmes sans enfants légitimes. Par contre, en son passage en Espagne, il eut 2 fils naturels d'une demoiselle de Soria. Le premier fut chevalier de la Calatrava et le deuxième aurait été auteur de la maison des marquis de Fuentes et peut-être un autre fils né en France. En conclusion, Bertrand du Guesclin était un héros comme on en a peu connu. Il a rendu d'immenses services à la France et à son roi. Son histoire est un tissu sans interruption de toutes les vertus rassemblées. Il a été le plus grand capitaine de son siècle. Malgré la haute fortune qu'il avait amassée, il a été toute sa vie plus grand que sa fortune. Son compatriote d'Argentais disait de lui « Ce fut l'excellence de la chevalerie. Ce fut un homme sans fard, sans dissimulation et le visage toujours ouvert. Toute sa vie, il a distribué ses richesses pour payer les rançons de ses chevaliers et de ses soldats. »